Bonjour, bienvenue à cette session avant-dernière session de cet après-midi. Ça va, pas trop fatigué? Si? Non? Ouais. Moi aussi. Allez, on va passer une heure à discuter ensemble des nouveautés réseau de Windows Server 2012. Alors c'est ma septième édition des Tech Days. C'est vraiment à chaque fois un plaisir de discuter avec vous. Alors, certains étaient là aux versions précédentes. Il y a nouveauté serveur de Windows Server 2008 R2, même nouveauté réseau de Windows Vista, qui a vraiment posé les bases en fait sur toutes ces discussions qu'on va avoir autour de la stack, autour des performances. Cette réarchitecture complète de la stack a vraiment été un gros changement fondamental dans les performances réseau et dans la sécurité du réseau tel qu'on le connaît. Donc le delta en fait, notre base de référence pour discuter des nouveautés de réseau de serveur 2012, ça va être essentiellement, on assume que vous avez déjà vu un certain nombre de nouveautés relatives à 2008, 2008 R2. Hein. Ça va être notre base essentielle de comparaison. Alors, les principes fondateurs qui nous ont guidés quand on a designé les évolutions nécessaires de la stack de serveur 2012, ben c'est les suivants. C'est avoir toujours cette idée d'avoir le réseau hautement disponible au service des applications. Première chose, hein, c'est pour ça qu'on veut faire du réseau. On veut que, bah, globalement, avec des machines qui sont de plus en plus concentrées, type des hyperviseurs qui ont plusieurs, parfois centaines, pour les cas les plus extrêmes, de machines, bah, on ait quand même un certain nombre de disponibilités, de fonctionnalités de haute disponibilité d'ores et déjà présentes dans la boîte. Donc, au service des applications, faire que, bah, si un lien tombe, j'ai la possibilité de passer sur un autre sans reposer sur des composants additionnels non Microsoft. Vous avez sans doute déjà vu hein, aussi ces slides sur Windows Server 2012 qui parlent de Windows Server 2012 en tant que Cloud OS, et c'est vraiment un élément fondateur. C'est comment est-ce que dès l'operating system, dès la conception d'operating system, on a pensé à la cohabitation de plusieurs locataires, de plusieurs tenants. Ces locataires pouvant être différentes entités internes de votre organisation qu'on va vouloir isoler sur une plateforme de virtualisation, mais ça peut être différents clients aussi, en fournissant tout un ensemble de mécanismes pour faire que si j'ai différents clients, bah, j'ai pas d'interaction qui se produise, en tout cas pas d'interaction non désirée. Et puis les performances élevées. Donc ça, les performances élevées, ça va être bah, différents aspects. Ça va être tiré parti notamment des évolutions du hardware et puis de l'évolution de ces utilisations du hardware. Tirer plus parti des multiples cœurs de mes machines, tirer plus parti du fait que j'ai beaucoup de VM sur mes hyperviseurs, tirer parti de mes cartes accélératrices réseau avec différentes fonctionnalités, jusqu'à ma VM par exemple, et on en discutera dans quelques instants. Et puis une gestion du réseau plus efficace, donner des outils pour que cette administration soit plus simple, avec de l'automatisation, mais aussi avec un certain nombre de fonctionnalités out of the box qu'on va vouloir fournir autour de la gestion des adresses IP et ces thématiques qui, on le sait, vous sont vraiment chères en ce moment. Et puis intégration avec des solutions partenaires, c'est bah, toujours offrir la possibilité de donner un maximum de fonctionnalités dès le niveau de l'operating system et permettre à un certain nombre de partenaires de s'intégrer à la stack, à un certain nombre de points d'entrée, pour offrir des fonctionnalités supplémentaires. Si vous avez l'habitude, par exemple, d'utiliser des switches virtuels Cisco, etc., ben, on va les intégrer directement dans la stack. Et on ne va pas remplacer notre unité, notre stack, mais on va étendre avec des fonctionnalités complémentaires que eux vont nous fournir. On va leur fournir des points d'entrée au niveau API. Alors, l'image qui fait peur, toutes les améliorations. Ah, toutes, c'est un petit peu ambitieux, mais en tout cas un certain nombre d'améliorations, les améliorations majeures en une seule slide, qui sont attachées à ces différents aspects, à ces différentes zones. Donc, bah, premièrement, au niveau de la disponibilité des applications, allez, la mise en équipe de cartes réseau, le teaming, DHCP failover, SMB 3.0, dont on discutera assez longuement dans cette présentation, la gestion de la QoS, l'intégration dans l'écosystème, qui était le dernier point dont on a discuté, c'est le switch extensible Hyper-V, comment rajouter des fonctionnalités à mon switch virtuel, des fonctionnalités dans différents ordres, du forwarding, du filtrage, etc. Et puis, ça va être de gérer l'interaction et les partenaires hardware, comment inclure dans cet écosystème bah, l'interaction entre le virtuel et le hardware, faire la jonction entre les deux mondes. On en rediscutera également. Au niveau des hautes performances, clairement ce qu'on veut faire, notamment pour des scénarios de type file server. Hein, je pense que vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre parler dans un certain nombre d'autres sessions. Ce qu'on veut faire, c'est le grand retour des serveurs de fichiers, c'est-à-dire des serveurs de fichiers qui sont hautement performants, quasiment aussi performants que du local, parce que on a rendu toute la couche réseau beaucoup plus accéléré dans un certain nombre de scénarios avec un certain nombre de hardware et de fonctionnalités qui sont permises par le type de hardware qu'on voit à l'heure actuelle. Donc ça, sont vraiment des points fondamentaux. Donc là, on parle de SMB Direct. On va en discuter à nouveau dans quelques instants. Comment ne pas vous parler de SRIOV également, Single Route IO Virtualization, qui est maintenant inclus pour les cartes réseau dans l'operating system. Au niveau du processing des paquets sur différents cœurs, bah, le RSS qui a encore évolué, et on en discutera à nouveau, hein, le RSC, petit nouveau dans la famille, et puis les VMQ dont on va discuter, qui permettent aussi d'améliorer la montée en charge et de supporter sur plus de cœurs les machines virtuelles qui tournent dans l'environnement. Au niveau de la gestion de notre réseau, bah, c'est vraiment une tendance de fond, je pense que vous l'avez remarqué dans vos entreprises, hein. La gestion du patrimoine IP, on a plein d'informations sur l'utilisation des adresses IP qui sont disparates dans plein d'endroits différents, et ce qu'on veut maintenant faire, c'est consolider tout ça. Donc notre idée, elle est de vous offrir une fonctionnalité déjà présente dès l'installation dans Windows, sans coût supplémentaire, pour pouvoir déjà avoir une vue très très en détail et surtout très centralisée sur ce qui se passe sur votre réseau IP. Et on va en discuter à nouveau dans quelques instants. Le resource metering, c'est fondamental quand on va faire des plateformes de type cloud. Pourquoi ? Bah pour la refacturation, hein, et vous savez que dès que ça touche à l'argent, bah, ça intéresse tout de suite beaucoup plus de monde. Être capable de dire que tel tenant, tel groupe de machines virtuelles a consommé telle bande passante sur le mois, telle quantité, c'est évidemment intéressant. Donc on fournit les billes techniques pour avoir cette info. Après, à vous d'appliquer la grille tarifaire qui va bien. Il y a des produits, même qu'on fait, si vous voulez, qui peuvent vous aider dans ce domaine. Mais en tout cas, Server 2012 fournit les éléments techniques pour ça. Et puis la gestion, qui parle de gestion PowerShell, je pense que vous avez clairement compris que PowerShell est vraiment au centre dans Server 2012 pour être plus efficace dans la gestion. Et donc il y a un certain nombre de commandes qui sont disponibles en interface graphique et en PowerShell, et il y en a un certain nombre d'autres qui ne sont exposées qu'en PowerShell. On a déjà discuté d'un certain nombre dans les sessions précédentes pour ceux qui étaient là, et puis on va en redétailler un certain nombre ici également dans cette session. Alors pour la gestion des multi-locataires également, hein, la partie private VLAN, donc l'isolation entre mes différentes personnes que j'héberge sur ma plateforme, et puis point fondamental, la virtualisation de réseau. Comment je vais faire cohabiter dans un même espace différents réseaux IP. Ben, je vous propose qu'on démarre tout de suite notre exploration de tout ça. Donc là, Cloud Dispo au service des applications. Premièrement, les applications et les plateformes toujours en ligne. Une hiérarchisation d'utilisation de la bande passante, la continuité des services réseau sans interruption et une intégration dans l'écosystème. Tout ça, ça se traduit comment techniquement ? Bah, premièrement, la mise en équipe de cartes réseau. Deuxièmement, la QoS. Troisièmement, le DHCP failover. Et puis, le SMB multichannel. Donc, le protocole de partage de fichiers qu'on utilise tous les jours, qui va maintenant faire du multiplexing. Le teaming. Alors effectivement, à chaque fois, on discute du teaming, qui n'est pas une fonctionnalité nouvelle, hein, qui est quelque chose qu'on fait dans nos data centers depuis des années, avec des outils propres à chaque fabricant de cartes réseau qui est présent dans notre data center. Donc ça, pour avoir beaucoup travaillé au support, je viens du support Windows Networking il y a déjà un certain nombre d'années, on a vraiment apprécié beaucoup l'arrivée du teaming sur le marché et nos clients qui installaient ça sur Windows Server 2003. Et donc ces nouveaux scénarios, quand les clients ont commencé à activer ça, et puis que ben, globalement, ça bluescreenait de tous les côtés. Bluescreener de tous les côtés parce que c'est l'injection d'un driver très bas niveau dans N10 pour récupérer le trafic réseau. Et puis, il y avait des petites choses à régler de tous les côtés. Donc ça, c'est générateur d'appels au support. On se fait des nouveaux amis un peu partout autour de la planète et chez différents constructeurs. C'est assez sympathique. Avouons-le, pendant ce temps-là, bah, la prod, elle galère un petit peu, et ça, c'est pas très sympathique, par contre. Donc, ce qu'on a voulu faire avec Server 2012, c'est de se dire, bah, finalement, ce qu'on veut faire avec du teaming, c'est simplement un multiplexeur de trafic. Donc, prendre le différent trafic qui nous est fourni par les différentes cartes réseau, et puis gérer le MUX au niveau de NDIS. Donc le modèle réseau de Server 2012, qui est NDIS 6.3, permet ça en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une carte réseau qui est compatible Server 2012, vous la branchez, elle est capable de faire du teaming avec cette carte réseau. Alors du teaming, ça va être en deux modes. Ça va être en mode agrégation de bande passante, ou ça va être en mode failover. Alors, pour être très pragmatique, en général, l'utilisation qu'on a vue du teaming chez nos clients, même avant que ce soit les technologies Microsoft, c'est le failover. Pourquoi? Parce que c'est le mode, premièrement, qu'on comprend comment il marche le plus simplement. Hein. Parce qu'on a un câble réseau qu'on utilise à un instant T. À partir du moment où il tombe, on tombe sur l'autre câble réseau. Donc ça, c'est le failover. C'est la méthode, on va dire, la plus courante, qui est complètement indépendante du hardware. On a aussi un autre mode de teaming qui va nous intéresser. C'est un teaming en mode agrégation de bande passante. Donc là, c'est de se dire, j'ai des cartes réseau 10 gigabits. Je voudrais avoir un agrégat de la capacité de toutes ces cartes réseau. Donc, alors, on a une petite limitation, c'est 32 cartes réseau. Donc, 32 cartes réseau à 10 gigabits, ça a fait des choses qui font rêver, hein, évidemment. Pour peu qu'on ait le sous-système disque qui suive. Avant d'aller jusqu'à ces extrêmes, c'est vraiment la tendance de fournir du service de haute disponibilité et fournir du câble réseau à forte bande passante sur des méthodes éprouvées et sans matériel cher. C'est vraiment cette idée-là, c'est de dire bah voilà, j'ai un agrégat de cartes Ethernet et j'ai pas besoin de reposer sur des technologies d'agrégation, enfin sur d'autres technologies qui n'agrègent pas, comme par exemple InfiniBand, où là on a clairement du matériel qui est certes beaucoup plus performant, mais aussi et surtout beaucoup plus cher. Et avec surtout une topologie complètement différente, une gestion qui est totalement différente. Donc apprentissage de nouvelles technologies, maintenance complètement décorrélée en fait de notre matériel Ethernet classique. Donc c'est l'idée du teaming dans Server 2012. À partir du moment où on a une carte Ethernet, et je précise Ethernet, hein, n'allez pas me faire du teaming de carte Wi-Fi ou autre bizarrerie, on sait agréger la capacité de ces bandes passantes et faire du failover avec Server 2012. Comment est-ce qu'on gère ça? Ben, on gère ça dans le Server Manager ou en PowerShell. La beauté de tout ça, c'est que ça se fait soit en local, soit à distance. Donc effectivement, en cas de défaillance d'une carte réseau, ben, on va dire si on avait 5 cartes réseau à 1 gigabit qui étaient alignées, ben, si on est en mode agrégation de bande passante, ben, on va passer une capacité à 4 gigabits par seconde, et puis sinon, si on est en mode failover, ben, simplement on va passer d'une carte à l'autre. Comment est-ce qu'on configure ça? Ben, je vous parlais du serveur manager. On peut y jeter un petit coup d'œil de manière assez rapide. Donc on a ici normalement un serveur avec plusieurs cartes réseau en mode legacy. Alors là, je vous le fais un petit peu en mode legacy parce que c'est un peu triché, c'est un environnement virtualisé. Donc on ne peut pas faire du teaming avec des cartes para-virtualisées, ça fait pas de sens. Mais par contre, des cartes physiques émulées, là, ça fait un sens de faire du teaming. Même si c'est un peu artificiel, hein, on va créer deux cartes réseau à 200 mégabits par seconde. Mais au moins, c'est pour vous expliquer le contexte de la démo. Comment est-ce qu'on va paramétrer ça? On va aller dans notre console Server Manager classique. On va voir les paramètres en local server et vous avez remarqué qu'on a ici une section qui s'appelle Nick Teaming et qui normalement devrait pas tarder à être disponible. C'est à partir de cet endroit qu'en fait on va définir les différentes teams présentes sur mon environnement. Donc là, il est arrivé en ligne. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me dit bah voilà, on est connecté actuellement sur Member 03. On a l'ensemble de ces cartes réseau qui sont disponibles. Donc celle du haut hein, ne compte évidemment pas. C'est la carte para-virtualisée, donc qui n'expose que les fonctionnalités de cartes para-virtualisées. Donc on peut pas les multiplexer. Par contre, on a en dessous deux cartes à l'ancienne, bien émulées. Ouh, ça c'est moche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement créer une team ici. Et va dire, voilà, Team Tech Days 13. Et on va sélectionner les deux cartes réseau à 100 mégabits. Là, j'ai la possibilité de choisir le mode de fonctionnement de cette team. Alors là, c'est grisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la machine a détecté que j'étais dans un contexte de machine virtuelle. Donc, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas disponibles, comme les interactions avec le matériel et comme la gestion des affinités. Mais on a la possibilité là de choisir soit un mode indépendant du hardware, ce qui est typiquement le cas qu'on va utiliser pour du failover, soit d'utiliser un mode dépendant du hardware pour qu'en fait à interagir avec le switch et négocier que bah, effectivement sur les trois ports qui sont up en Ethernet sur tel serveur, en fait on va avoir une seule adresse IP MAC logique qui va représenter ma team. Donc ce mode demande une interaction avec le hardware, donc se connecter sur l'interface de son switch manager et dire bah, soit j'utilise du mode teaming statique, soit j'utilise du mode teaming en utilisant le protocole LACP qui va me permettre d'interagir et de négocier avec le switch. Donc si je choisissais le mode LACP et j'active le LACP sur les ports de mon switch, bah, j'aurai une négociation logique qui va se passer et ils vont se mettre en accord au fur et à mesure que j'ajoute des cartes potentiellement dans le lag, dans le groupe d'agrégation, ils vont être opérationnels. Donc là, pour l'instant, j'ai choisi de faire, enfin j'ai choisi dans une certaine mesure, hein, dans la mesure où c'est virtualisé, il me laisse pas beaucoup le choix, mais je fais vraiment du mode switch independent et du mode agrégation de bandes. Si je voulais faire simplement du mode failover, je dis bah voilà, mon standby adapter, ça va être LAN à LAN 2, donc j'aurai un instant T que l'interface LAN 1 qui sera active, et à partir du moment où elle tombera, bah, je passerai sur la carte LAN 2. Vous voyez, c'est relativement simple. Simplement, là, on va se créer un monstre de performance avec une carte réseau à 200 mégabits par seconde. Donc là, on a le probing, et puis on voit bien qu'effectivement, si on va dans le Network Control Panel maintenant, eh bien, on aura une carte logique qui sera là. Donc c'est à partir de là que je vais faire mes paramètres IP classiques V4, V6. Et si par contre je vais voir sur les propriétés de mes cartes réseau classiques, donc les bonnes vieilles Intel émulées, eh ben on va voir qu'en fait on n'a absolument rien en paramètres qui est disponible. On a juste le MUX protocole qui est spécifié ici, puisque c'est lui qui va prendre le trafic et répartir avec les logiques de LBFO, de Load Balancing Failover de Server 2012. C'est lui qui va déterminer comment est-ce qu'on dispatche le trafic. Et vous remarquerez qu'effectivement, si on descend, il n'y a aucun protocole qui m'est exposé ici, puisque tout est exposé sur la carte virtuelle, sur la carte logique, on va dire. Parce que le mot virtuel est un petit peu confusant dans ce contexte. Propriété, up, IPv4 et IPv6. Donc voilà comment ça ressemble, à quoi ça ressemble le teaming. Tout ça est faisable en ligne de commande pour les amateurs de PowerShell. Autre chose qui est autre scénario qui est intéressant avec Server 2012, c'est le multiplexing SMB, ce qui est référencé parfois en tant que multicanal SMB. Alors ça doit vraiment vous C'est vraiment significatif des efforts qu'on a fait sur SMB 3.0 pour être un protocole de partage de fichiers à haute performance et qui va vraiment servir les files serveurs Windows Server 2012. Pourquoi? Parce qu'on va fournir d'une part de l'agrégation de bandes passantes et d'une part du failover. Donc on veut fournir en fait entre guillemets du multipass I/O sur SMB. Alors là, vous me direz, on va agréger à tous les niveaux maintenant la capacité des bandes passantes. Et en fait, on va surtout pouvoir mixer les différentes capacités, ces différents scénarios. Donc on va pouvoir mixer des cartes qui sont teamées. Donc créer une team à 20 gigabits, une deuxième team à 20 gigabits. Et on remarquera qu'on aura aussi l'utilisation du multiplexing au niveau SMB. C'est-à-dire que SMB va établir plusieurs canaux de communication et utiliser la bande passante de toutes ces cartes réseau. Donc de ces deux cartes logiques à 10 gigas par exemple. Donc la tolérance de panne avec SMB V3 et aussi l'agrégation de bande passante, ça va vraiment nous permettre d'avoir ce multipass I/O et de desservir ces rôles de file server d'autant plus disponibles. On remarquera qu'il y a un tuning automatique qui est fait pour déterminer le nombre de connexions appropriées entre chacune des machines. Donc, un instant T, typiquement, la règle par défaut, c'est qu'il ne va pas exister plus de 8 canaux entre un couple client-serveur. dans toute relation multicanale qui va exister. C'est-à-dire que on va créer plusieurs liaisons de TCP. On va dire, si on a deux cartes réseau 10 gigabits, on va créer a priori deux connexions TCP sur les cartes réseau 10 gigabits. Ben c'est en réalité un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que c'est bien beau d'avoir des cartes réseau 10 gigabits, mais si on a des opérations sur des gros fichiers, ben c'est parfait. Simplement, si on a des opérations sur des petits fichiers, et en fait, on va perdre pas mal de temps à faire des transactions, des allers-retours, qui vont être d'autant plus graves qu'on a de la latence sur le lien. Donc, on va chercher aussi à paralléliser les connexions TCP qui vont exister sur une machine. Donc, typiquement, dans des scénarios, on prend un exemple assez classique, deux cartes, un gigabit, entre un client et un serveur, on va établir un partage de fichiers entre eux. Et si vous regardez dans la trace réseau ce qui va se passer entre ces deux bécanes, et bien tout simplement, ils vont établir quatre liaisons TCP sur chaque carte. Pourquoi? Parce qu'il va se dire potentiellement, je vais pouvoir multiplexer les opérations et faire plusieurs opérations de transfert de petits fichiers, et donc maximiser réellement l'utilisation de la bande passante à cet instant. Donc c'est vraiment les scénarios qu'on a en tête avec SMBV3. Alors, bien, on peut paramétrer un certain nombre de ces options en ligne de commande avec PowerShell et déterminer le comportement de ce composant. Typiquement, on va pouvoir favoriser ou défavoriser des chemins. Défavoriser, si on peut dire ça, ouais. En fait, dire, bah, telle carte réseau, elle est là, mais en fait, c'est pour du backup, t'y touches pas. Donc ça n'entrera jamais dans l'évaluation des chemins. Comment ça se passe techniquement, cette négociation des chemins? En fait, à l'établissement de la liaison TCP entre les machines, on se connecte sur le 445, on va détecter qu'on est en SMB V3. Techniquement, pour ceux d'entre vous qui vont dans les traces réseau, vous verrez que en fait c'est marqué SMB 2.2 dessus. En fait, techniquement, SMB V3 c'est SMB 2.2, mais le marketing s'est rendu compte qu'il y avait trop de features, donc il fallait créer une nouvelle version. Donc, vous allez voir dans la trace réseau SMB 2.2, c'est SMB V3, comme vous le voyez. Il n'y a pas de souci. Parfois, c'est encore documenté dans certains white papers. Donc, il y a cette négociation qui va se faire, et dans cette négociation de 3.0, le serveur va dire, bah, tiens, on est en train de discuter sur telle carte. Au fait, si tu veux, puis si t'as rien d'autre à faire, on peut discuter sur telle autre carte. Et après, c'est la responsabilité d'implémentation client. Donc, c'est la responsabilité de Windows 8 ou de Windows Server 2012, qui est là en tant que client consommateur de ce file share, d'évaluer si les chemins réseau, en fait, autres avertis par le serveur SMB, sont bien atteignables du point de vue du client. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder l'adresse IP, est-ce que ça a l'air d'être quelque chose d'atteignable, et puis il va essayer de s'y connecter. Il va aussi et surtout évaluer quelles sont ses capacités avec le hardware. Parce que globalement, si on a un serveur avec un CPU, pas d'étalement de charge, rien du tout, c'est peut-être pas la peine d'essayer de saturer le câble, alors qu'on a en fait au final rien en local pour faire du processing de trafic. Donc ce calcul des capacités va être largement calqué sur les fils RSS qui sont disponibles. Donc les fils RSS, c'est les fils de processing de trafic entrant qui sont disponibles au niveau du CPU pour traiter les paquets réseau. Donc voilà, l'idée, hein, c'est qu'effectivement, on a le petit paquet qui tombe et on a toujours la connexion qui est maintenue entre le client et le serveur ici. Le multicanal en action, bon, je n'ai pas arrivé à me connecter à la maison, donc on va la passer celle-là. Mais il y a des vidéos sur TechNet qu'on a fait récemment qui vont vous montrer ça. Mais vraiment, la beauté et pourquoi on aime ça, c'est que globalement, c'est pourtant une démo qui est assez facile à faire, il n'y a en gros rien à paramétrer. À partir du moment où vous avez deux cartes réseau à capacité égale, et ben en fait, elles vont être utilisées. Je précise, hein, à capacité égale, parce que vous vous doutez bien que sur une machine, si j'ai une carte réseau 10 gigabits, une carte réseau 1 gigabit, bah, il n'y a pas d'ambiguïté, il va utiliser uniquement la carte 10 gigabits. Par contre, si on a deux cartes réseau 1 gigabit ou deux cartes réseau à 10 gigabits, bah là, il va multiplexer sur l'interface pour tirer parti du lien max. Autre fonctionnalité assez intéressante de Server 2012, c'est la disponibilité, cette fois-ci, appliquée au service DHCP. Alors, qu'est-ce qu'il me fallait jusqu'à présent si je voulais un service DHCP hautement disponible? Mais il fallait faire un cluster. Et ça, l'admin réseau, quand vous lui dites ça, il se barre. C'est carrément pas les mêmes mondes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a implémenté un protocole qui est standard, qui est le DHCP failover, et qui en fait va permettre à deux de partager une étendue IP et de la rendre hautement disponible sans mettre en place de cluster. Donc effectivement, je vais avoir deux serveurs DHCP et ils vont partager en fait leur base d'informations concernant les baux qu'ils ont attribués aux différents clients de mon réseau. Et si j'ai un serveur DHCP qui part en vacances, bah celui qui en fait continue de répondre aux requêtes réseau va pouvoir renouveler les paramètres IP de la machine tels qu'ils ont été établis précédemment. Donc on a bien cette haute disponibilité qui est acquise par ce mécanisme. Donc là, que dire de plus là-dessus? Bah, ça inclut un mode actif-actif ou un mode actif-passif. Donc soit effectivement, je vais faire un split de la capacité de mon scope. Donc je vais dire, bah voilà, j'ai deux serveurs d'HCP. Chacun prend 50-50 et les deux, vous êtes actifs. Donc chacun va répliquer des infos vers l'autre et pour les informer des attributions de baux qu'ils ont effectuées. Autre mode, le mode actif-passif. Pareil, là, c'est très très simple, très très binaire. Il y en a un qui est actif à un instant T. Et puis le deuxième, quand il verra que l'autre est parti en vacances, il va prendre le relais et agir et devenir actif et servir l'étendue d'HCP. Pour configurer ça, bon, on sort pas du service d'HCP. Pas de cluster et du tout. On établit une relation directement entre mon serveur DHCP 1 et 2. Donc on a différentes topologies qui sont possibles pour ce genre de scénario. Donc avec potentiellement, on va dire, un serveur DHCP sur un site central et puis différents serveurs sur différents sites secondaires qui pourront prendre le relais en cas de problème sur l'un ou l'autre des sites. Autre fonctionnalité qui va être intéressante avec le support des architectures de type cloud, privé, étant la notion principale auquel on est en train de s'adresser ici, mais quoique si vous êtes opérateur de cloud, bah ce sera vraiment sur votre infrastructure que vous opérez. L'idée, c'est de se garantir en fait un certain nombre de mécanismes pour privilégier les trafics échangés entre les machines quand la bande passante devient manquer. Donc il y a deux choses pour spécifier des paramètres de bande passante si on parle dans le cadre des machines virtuelles ici. On va pouvoir attribuer des bandes passantes spécifiques par rapport à certaines machines virtuelles déjà. Et attribuer aussi un poids relatif de bande passante. Alors c'est deux fonctionnalités qui sont différentes pour spécifier la QoS. Celle qui est exposée dans l'interface graphique quand vous allez dans la console Hyper-V et que vous réglez en fait cette petite option bande passante disponible et vous mettez 1 mégabit par seconde, c'est celle-là. Par contre, il y en a une autre qui est uniquement exposé qu'en PowerShell et qui permet de déterminer un poids relatif par rapport à un trafic de tel type ou tel autre. Ce qui est plutôt la façon qu'on va vous recommander de définir la QoS. Pour dire, bah voilà, cette machine-là a la priorité 5, celle-là 4 et celle-là 1. Et en fait, il va faire un prorata pour attribuer le trafic à une note de 1 moindre par rapport à toute la bande disponible à la machine qui a la note de 1. Et ensuite de les classer comme ça par poids. Ce qui est intéressant dans cette implémentation de serveur 2012, en tout cas ce qui est extrêmement nouveau, c'est le support de la QoS en software, mais surtout au niveau hardware, avec le support d'une technologie qu'on appelle DCB, le Data Center Bridging. Alors, data center bridging, l'idée c'est quoi? C'est de fournir en fait avec ce protocole une répartition logique, on va dire entre 8 canaux sur un réseau et dans lequel en fait la machine va catégoriser ces différents canaux de trafic et va le faire un processing avec plus ou moins de priorité. Donc ça c'est une nouvelle manière de faire de la QoS au niveau hardware entre guillemets. C'est quelque chose qui vient directement dans cette tendance du marché à l'heure actuelle qui est de faire ce qu'on appelle des converged fabric, versus les non-convert je fabrique. Alors là, au niveau hype, vous alignez des mots, mais c'est un truc de fou dans les soirées. L'idée derrière ces beaux mots marketing, en tout cas marketeux, technico, soirée du mercredi soir, c'est quoi? C'est de se dire, ben, dans une infrastructure, je vais avoir un réseau pour le stockage, un réseau pour ma data de production, un réseau pour mon administration. Et puis je vais gérer des adresses IP, et puis je vais gérer du hardware, et puis, ou alors je vais gérer des VLAN, et puis attribuer des priorités différentes dans ce truc-là. Bah, ça coûte de l'argent. Acheter le matériel, paramétrer tout ça et faire que tout ça, ça marche. Ça coûte de l'argent et puis c'est un petit peu compliqué, on s'y perd dans les plans d'adressage, etc. Donc il y a une tendance en matière d'architecture à l'heure actuelle qui est de se dire, c'est quoi? On va pas chercher à comprendre tout ça, on va tout mettre sur le même câble, un bon gros câble à 10 gigabits potentiellement agrégé, et puis c'est la loi de la jungle. Alors DCB, l'idée c'est de faire un petit peu de règles dans cette loi de la jungle. C'est de dire, bah effectivement, le trafic de stockage, peut-être que je vais lui donner une priorité de tel ordre. Le trafic d'administration, une autre priorité, ça va être respecté dès le niveau hardware. Donc DCB, ça vient assez logiquement avec ce contexte de fabrique convergée. Donc ça, c'est l'implémentation QoS de Server 2012 qui est assez intéressante pour s'inclure dans vraiment cette stratégie de gestion des performances sur mes différents locataires. Alors au niveau de mes multilocataires, la mobilité de mes machines virtuelles entre mes différents clouds, bah, ça c'est une réalité, hein, on a des machines virtuelles partout, sur mon cloud privé, sur mon cloud hébergé chez Microsoft, sur d'autres plateformes. Et puis c'est génial parce que j'ai vraiment une mobilité de ma machine virtuelle. Simplement, la réalité, c'est que bien souvent, quand on a une machine qui va bouger d'un hyperviseur à l'autre, bah, leur câblage de tout ça, c'est beaucoup moins virtuel et beaucoup moins dynamique. Je pense que quand on décide de bouger une machine virtuelle d'un autre A à un autre B, on est d'accord pour dire que c'est relativement rapide. Quand on va redemander à la mine réseau qui est à l'autre bout de tout ça de dire, bah tiens, il était sur tel VLAN présent sur tel switch, maintenant tu vas les mettre sur tel VLAN sur tel autre switch, ça prend un tout petit peu plus de temps. Non? Je me trompe? C'est vraiment ce qu'on voit sur le terrain tous les jours, hein, donc c'est vraiment l'expérience qui parle. Connexion intersite, donc comment est-ce que je vais relier mon cloud avec mon cloud privé, avec d'autres clouds, une extension dans des performances, on va dire dans Azure par exemple, pour tirer parti des performances dans Azure, comment est-ce que je place des VM là-bas, et comment est-ce que je tire un câble entre les deux. Et puis une isolation de réseau plus simple, donc qu'est-ce qu'on a comme briques technologiques qui vont répondre à ces scénarios par ici? Eh bien, on a la virtualisation de réseau avec Hyper-V Network Virtualization, les private VLAN et tout un ensemble de choses qui vont nous aider pour la connectivité intersite. Eh bien, c'est parti, la virtualisation de réseau avec Hyper-V. Alors, c'est une session qui est passée, mais on a fait une session hier après-midi dédiée à Hyper-V Network Virtualization niveau 400. C'est des gens qui étaient là hier. Ça fait plaisir de vous revoir. Donc c'est une session qui réexplique en détail tous les mécanismes derrière ça et l'évolution de l'écosystème. Je vous invite à la revoir si vous êtes intéressé en webcast, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'elle permet de vraiment descendre au niveau du paquet et de voir ce qui se passe dans ces scénarios. Typiquement, le scénario c'est quoi? On a différents hyperviseurs sur lesquels on veut faire cohabiter différents locataires qui ont un espace d'adressage qui est partagé. D'ailleurs, c'est quand même assez probable au niveau statistique qu'on ait un espace d'adressage à 10.0 quelque chose sur une entreprise A et 10.0 quelque chose, ce même quelque chose, sur un autre réseau. Simplement, quand on veut faire cohabiter ça dans une plateforme de virtualisation, dans un cloud, bah, c'est vraiment plus compliqué. Puis je pense qu'on a tous déjà vécu aussi ce problème quand on doit merger. De fusionner différents réseaux de différentes entreprises et qu'on partage cet espace d'adressage, c'est évidemment problématique. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire avec la virtualisation de réseau avec Hyper-V? Bien, en réalité, on va définir deux plans, ou en tout cas deux niveaux de lecture de l'espace d'adressage. Un niveau va être ce qu'on appelle le Customer Address Space. Le Customer Address Space, ça va être ce que ma personne qui est hébergée sur mon réseau, mon locataire, mon tenant, va voir. Et puis elle, globalement, ce qui l'intéresse de voir, c'est de se dire, bah voilà, sur mon réseau interne, j'utilise du 10.1.1.1/16, par exemple. Il y a hors de question que si je vais dans telle plateforme de cloud, je change mon espace d'adressage de mes serveurs. Et par contre, il y a aussi un autre client qui va arriver avec le même espace d'adressage, hein, après, vous inquiétez pas. Donc la thématique, elle va être de se dire, bah, sur mon provider address space, sur mon réseau de data center, moi ce que je vais vouloir faire, c'est totalement abstraire ça, parce qu'il y a hors de question que moi aussi je recable, je rechange tout le réseau tous les semaines, parce que j'ai un nouveau client qui a tel espace d'adressage. Donc ce qu'on va faire, on va définir un moyen d'encapsuler des paquets sur le réseau, pour faire que, entre mes différents hyperviseurs, qui vont héberger des machines qui appartiennent au même client, ben, je vais leur fournir un moyen de communiquer de la machine, par exemple, dans notre cas ici, du serveur web au serveur SQL, en assurant la transparence pour le réseau. Donc là, on établit un mapping. Voilà, si tu veux discuter avec telle autre machine dans l'espace bleu, ben, en fait, l'adresse qui va être utilisée, la mise sur le câble, ça va être l'adresse 192.168, donc l'adresse de mon data center. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vous voyez, c'est l'utilisation de NVGRE. NVGRE, l'idée derrière NVGRE, c'est quoi? C'est de se dire, bah, tu vois les paquets qui partent de ta machine SQL vers ton serveur web, tu vas prendre le paquet, tu vas le réencapsuler dans un autre paquet, qui là sera dans l'espace d'adressage 192.168.1.10, et qui va être échangé avec l'autre hyperviseur en face. Et l'autre hyperviseur en face, il va recevoir le paquet, et alors, tiens, c'est pour tel réseau virtualisé avec tel identifiant de subnet virtuel. Donc lui, il va dire, bah ouais, effectivement, c'est un subnet que j'héberge. Il va recevoir le paquet, le décapsuler, le mettre sur le switch virtuel Hyper-V. Et la machine virtuelle va recevoir le paquet, faire le processing classique. Et puis dans l'autre sens, la même opération va se passer. Donc ça me permet d'avoir une cohabitation de ces différents espaces d'adressage sur mon réseau IP classique de fournisseurs de cloud. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors sur la partie protocolaire NVGRE, GRE vous connaissez, hein, c'est le protocole Generic Routing Encapsulation qui dit c'est à peu près tout sur IP. Et donc effectivement, c'est dit à peu près tout, bah là on va reposer sur ce protocole, là. Donc c'est vu comme du niveau GRE, si vous regardez les entêtes IP dans le next protocole, ce qui veut dire que ça va pouvoir être aussi accélérable au niveau hardware. Il y a du hardware qui sait accélérer le GRE et le processing du GRE, donc on va pouvoir en tirer parti aussi. Donc ça, ce sera prêt dans quelques temps. Alors, Windows Server 2012 fournit des briques techniques pour en fait mettre ça en œuvre. L'orchestration de tout ça, on va dire, c'est un hyperviseur, et en l'occurrence, le nôtre est tellement mieux. Donc c'est System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1, qui inclut le support de la virtualisation de réseau, et qui va permettre en fait de distribuer ces stratégies sur les différents hyperviseurs de ma plateforme, pour qu'ils aient la connaissance des différents contextes de virtualisation, et les différentes encapsulations qui doivent être faites sur les machines. Donc voilà, NVGRE de manière simple et rapide. Toujours dans une optique d'isolation des différentes machines que j'héberge dans mon data center, cette notion de private VLAN. Cette notion de private VLAN, en fait, elle est là pour un constat unique qui est d'accélérer, ou surtout de faciliter le déploiement de réseaux dans ma plateforme d'hébergement de machines virtuelles. Pour pas répéter le mot cloud, encore une fois. L'idée, c'est de dire quoi? Finalement, il y a un certain nombre de machines virtuelles dont la seule mission, en fait, va être de communiquer quoi avec l'Internet ou avec un certain nombre de services communs. Mais finalement, j'ai pas besoin de définir un réseau complètement pour cette machine-là. Donc, si on a un fournisseur de cloud, eh ben, on peut utiliser la technique des VLAN. Simplement, la technique des VLAN est limitée à environ 4000 VLAN par réseau IP. Et donc en matière de montée en charge, de scalabilité, c'est vraiment un facteur qui va être bloquant pour moi. Donc la notion de private VLAN, elle est implémentée dans le switch virtuel d'Hyper-V, et elle va me permettre de définir différents types de ports et surtout une dimension additionnelle à mon VLAN. Vous voyez, cette notion de VLAN, c'est une notion de tuyau à l'intérieur du tuyau IP. La notion de private VLAN va permettre de redéfinir d'autres tuyaux à l'intérieur du tuyau qui est le VLAN. Et on va surtout aussi pouvoir définir un type de port avec les private VLAN. Donc on va pouvoir définir que des machines vont être catégorisées en mode promiscuité, en mode communauté ou en mode isolé. Donc dans le mode isolé, typiquement, une machine virtuelle qui est dans un mode isolé, elle aura la possibilité de discuter que avec elle et avec d'autres machines qui seront en mode promiscuité. Elles n'auront pas la possibilité de discuter entre autres machines qui ont été flaguées comme type isolé. Les machines qui sont en mode communauté, donc on va les définir avec un identifiant de VLAN secondaire comme étant 5 ici, ils vont partager la même communauté, donc elles vont avoir la possibilité de discuter entre elles. Et j'aurai par contre les machines en mode promiscuité, où là c'est le mode open bar, le mode service commun que je vais réaliser sur ma plateforme. Donc là l'ensemble des machines de ma plateforme auront accès aux ressources qui sont définies en mode promiscuité. Donc là, de la même manière, pour spécifier ça, pas d'interface graphique, c'est du PowerShell exclusivement qui nous permet de définir ces différents modes sur mes ports de switch virtuel Hyper-V. La connectivité entre mes différents sites, bah, ça va être fourni par le composant accès distant de serveur 2012, et en fait, il s'appelle même accès distant unifié. Unifié pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est cette même console qui va me permettre de gérer l'ensemble de mes accès distants. Donc mon VPN site à site, donc site à mes différentes filiales ou liaison avec mon cloud. Ça va aussi être la possibilité de supporter les clients VPN classiques, donc là un poste client qui va se connecter à l'infra, et puis aussi et surtout, certains diront direct access. Donc à partir de cette même console d'accès distant que vous allez avoir dans Server 2012, ça va être le point d'administration de l'ensemble de ces technos. Alors pour la partie technique du serveur VPN de Server 2012, pour la partie site à site, il y a un seul ajout, qui est le support de IKE V2 dans les mécanismes de négociation de la sécurité pour les VPN site à site. IKE V2 avait été introduit avec serveur 2008R2 pour la liaison entre un serveur et une machine cliente, et en fait la version 2012 inclut maintenant le support d'IKE V2 pour la liaison site à site ou site à cloud. Après, évidemment, vous irez demander à vos fournisseurs de cloud préférés est-ce qu'ils fournissent de l'IKE V2, et ce sera toujours l'occasion de se faire des nouveaux amis. L'intérêt d'IKE V2, hein, juste pour en donner quelques mots, c'est en gros plus de montée en charge et plus une reconnexion facile en cas d'échec de la liaison. Une liaison IKE V1, une liaison IPsec qui utilise une Nego IKE V1, elle est un petit peu toussive, on va dire, à mettre en place, alors qu'avec IKE V2, on monte beaucoup plus en charge et on reconnecte plus facilement des machines. Eh ben, puisqu'on parlait des accès distants, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter quelques notes sur Direct Access. Hein. Je pense que c'est vraiment une technologie fantastique. Je travaille avec des clients un petit peu partout dans le monde pour mettre Direct Access en place. Mais croyez-moi, une fois que c'est en place, ils vous adorent. Mais pour arriver là, il y a déjà un certain nombre de prérequis. Alors les prérequis de Direct Access, hein, jusqu'à présent, c'est quoi ? C'est deux adresses IPv4 publiques consécutives et routées depuis l'internet. Voilà. De l'IPv6 sur le réseau interne. Donc là, on a déjà perdu 99,9999%. Hein. Et puis, pour le petit pourcentage qui restait, en fait, il vous faut une PKI. Ouais. Donc là, il devenait clair que c'était vraiment à mettre en place un projet d'entreprise. Et c'est globalement pas la tendance à l'heure actuelle. C'est qu'on veut déployer quelque chose de très rapide et avoir un retour sur investissement très très efficace et très très rapide. On s'est dit... Il n'y a pas de problème. Tous ces technos, on va les packager maintenant de manière à ce que ce soit facile à mettre en place. On s'est dit, bon, bah, vous n'aimez pas les deux adresses IPv4 publiques consécutives, parce que c'est pas bien d'exposer des adresses IP publiques sur Internet, hein, c'est dangereux en matière de sécurité, oulala. La direction sécurité sort ses ergots et c'est le drame. Et c'est vraiment un des points qui est bloqueur au niveau déploiement de Direct Access, même si, sans qu'ils le savent, ils mettent déjà des points, des endpoints IPsec sur Internet sans aucun problème. Hein. Mais bon, ça c'est notre débat. Donc on s'est dit, bah pas de problème, on va utiliser les méthodes de sécurité classiques, que au moins tout le monde y comprend en même temps, qui est de faire la NAT. Et ouais, la NAT, ça c'est de la sécurité, les mecs. Au-delà du côté ironique, je vous décris simplement la réalité des choses. Hein. J'aimerais que ce soit imaginaire, mais c'est pas le cas. Donc on s'est dit, bah, pas de problème, les gens aiment la natte, on va leur mettre de la natte, il n'y a pas de souci. Donc on s'est publié un serveur Direct Access qui est derrière le port 443 avec du TLS et qui est derrière sa petite adresse IPv4 interne, donc il est caché, il est sécurisé. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tunnel TLS jusqu'au serveur Direct Access. On va mettre de l'IPsec aussi. C'est-à-dire qu'on ne diminue pas le niveau de sécurité, on a toujours de l'IPsec. On a une machine Windows client qui est du coup capable de se connecter avec un serveur qui est publié uniquement avec le port 443 sur l'Internet. Et puis, quelque chose qui peut vous intéresser aussi, c'est qu'on est capable de faire ça sans PKI. C'est-à-dire qu'un client Windows 8, il saura faire de l'authentification directement sur Internet avec de la proxysation de Kerberos, que va faire le serveur Direct Access. Donc on ne baisse pas significativement le niveau de sécurité. Et puis on pourra déployer Direct Access de manière très rapide. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Et si vous voulez entendre parler de Direct Access, bah, il y a une session demain, ça tombe bien, d'une heure, qui en discute pendant un sacré bout de temps avec mon collègue Stanislas. Les performances élevées et le support du hardware moderne. Donc l'ambition là, c'est vraiment de faire que le réseau soit jamais goulé d'étranglement dans un système hautement dense en matière de machine virtuelle ou hautement performant. Quelques technos: RSC, DVMQ, SRIOV, RSS et SMB Direct. Allez, on commence avec SMB Direct. Qu'est-ce qu'on fait quand on échange un fichier entre un client et un serveur ou entre plusieurs serveurs? Eh bien, on va faire du processing classique SMB. Donc, on a ici un client et un serveur de fichiers. On va transmettre les paquets sur le câble et on va avoir différents niveaux de buffer. C'est-à-dire qu'on va transmettre du buffer au niveau du client, au niveau de l'application, au niveau d'ouverture de la socket, ou au niveau du client du redirecteur SMB. Donc, on va avoir des buffers au niveau de l'application, des buffers au niveau SMB, des buffers au niveau de l'operating system. Et puis une gestion des buffers aussi au niveau du driver de carte réseau. Et puis le carte réseau, elle a aussi son driver à implémenter. Et puis il va se passer la même chose de l'autre côté. Alors qu'on va récupérer les paquets, on va décapsuler, on va avoir un mécanisme de commit et d'utilisation des buffers. On s'est dit, bah finalement, les deux là, ils parlent SMB directement. On va court-circuiter un certain nombre de buffers. Donc SMB direct, c'est ça en fait. C'est de se dire, tu sais quoi, on va faire du remote DMA, et puis globalement, on va échanger des data structures au niveau SMB, que le client SMB, que le redirecteur SMB est capable de comprendre, qui lui sont délivrés par le serveur SMB, pardon. Donc on évite tout un ensemble de mécanismes de réencapsulation, décapsulation à différentes couches. C'est fantastique, sauf qu'il faut du matériel spécial pour ça. Donc c'est pas sur les cartes réseau de tous les jours qu'on est capable d'atteindre ces débits. Il nous faut pour ça de l'InfiniBand, du iWarp ou du Converged Ethernet. Donc il faut du device un petit peu particulier, des topologies un petit peu particulières, mais on va avoir la possibilité de tirer parti de ça pour avoir un serveur de fichiers hautement performant. Au niveau de la couche de virtualisation SRIOV, l'idée d'SRIOV de manière assez rapide, hein, c'est de découper des petits morceaux de carte réseau et de leur donner un accès rapide et direct au niveau des machines virtuelles. Donc éviter en fait les différentes décapsulations et réencapsulations de la même manière au niveau du switch extensible IPRV et de se dire, bah voilà, moi j'ai besoin que cette machine-là, elle pulse, qu'elle ait très peu de latence. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ait un accès direct à la carte réseau. On sait fournir ça avec des cartes réseau qui supportent SRIOV. Donc c'est pas la carte Realtek à 10 €, hein, je vous rassure tout de suite. Ça demande de la même manière une carte réseau qui supporte ces appels directs en SRIOV. Donc il y en a chez Intel, il y en a chez Broadcom, vous choisissez votre favorite. Une fois que vous allez définir ça, vous allez définir que le switch virtuel va utiliser SRIOV, ce qui veut dire qu'en gros que le switch virtuel va être en mode bypass. Et donc ça va faire que la machine virtuelle aura un accès direct au hardware. Ça veut dire que vous allez le voir directement dans le device manager de votre Windows Server virtualisé. Parce qu'en fait, vous allez voir en plus de la carte paravirtualisée un nouveau driver dans les options réseau qui va être propre au constructeur de la carte. Donc effectivement, on diminue la consommation des ressources CPU, on abaisse la latence pour les applications qui sont super consommatrices de ressources. Alors, autre point intéressant, RSS, donc le Receive Side Scaling, qui est pas nouveau, qui a été inclus déjà depuis un certain temps dans nos operating systems, et l'idée c'est d'étaler sur les différents cœurs de CPU le processing des paquets réseau. Au niveau du fonctionnement de RSS, globalement dans ses apports relatifs à 2012, c'est d'être beaucoup plus dynamique et tirer parti en fait de la topologie NUMA, c'est-à-dire tirer parti de la géographie, on va dire, des banques mémoire avec le CPU. Autre chose qui là par contre est nouvelle par rapport à serveur, aux autres versions de Windows Server, c'est RSC, le Receive Segment Coalescing. Yes, j'ai réussi. Pas évident a priori. L'idée du RSC, c'est simplement en fait de modérer les interruptions qui vont être faites pour récupérer le trafic des cartes réseau et en fait de committer plusieurs liaisons TCP à la fois. C'est-à-dire d'éviter de prendre des liaisons pour chaque TCP et de récupérer la data, mais de dire dans un cycle de processing des interruptions, bah je prends tout direct dans une seule opération. Donc c'est activé et supporté par défaut sur les cartes 10 gigs et ça permet de réduire les cycles CPU en fait qui sont nécessaires au processing, avec une faute d'orthographe, au nécessaire au processing des IO réseau. Autre nouveauté architecturale qui concerne les machines virtuelles, le support des dynamiques VMQ. Les VMQ, c'est quoi? C'est la répartition des fils de processing du trafic réseau sur les différents cœurs, sur les différents cœurs d'une machine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans Server 2008 R2? On a introduit cette fonctionnalité. C'était en mode dynamique, c'est-à-dire en mode statique, pardon. Ce qui fait que vous allez paramétrer dans les settings de la carte réseau le nombre de fils qui vont être attribués pour VMQ. Donc dire que vous allez avoir un certain nombre de fils sur les différents cœurs qui vont être en charge du processing des VM. Simplement, c'est statique. Donc si vous avez des cœurs en plus que vous avez ajoutés, vous n'avez pas ajouté le nombre de VMQ, vous allez avoir potentiellement des cœurs qui ne sont pas opérants. Ça veut dire qu'aussi, parfois, quand on va avoir des cœurs qui vont passer en mode de parking pour faire de l'économie d'énergie, eh bien on va se retrouver un petit peu embêté. Donc là, l'évolution de DVMQ, c'est vraiment d'être dynamique, de s'adapter automatiquement au nombre de cœurs au niveau du trafic réseau, et de négocier, en fait, d'interagir avec les process de core parking et autres pour tirer parti de ça et maximiser l'utilisation et la répartition optimale du trafic sur les différents cœurs CPU disponibles sur la machine. Allez, une gestion du réseau plus efficace avec l'ensemble de ces mécanismes, de ces problématiques. IPAM, IP Address Management, on en a discuté. Branch Cache qui a un petit peu évolué. Resource Metering et Windows PowerShell. IPAM, clairement, c'est nouveau dans cette édition de ces nouvelles fonctionnalités. Et le constat, il est simple, c'est qu'on a des informations déjà sur la consommation d'adresses IP dans le réseau, bah, un peu partout, hein, sur le DC, les DNS, les DHCP, les serveurs Radius, les NPS. Et simplement, il n'y a rien qui m'offre une vision synthétique sur qu'est-ce qui réellement est consommé. Donc en fait, j'ai pas d'infos sur dans mon espace d'adressage global, il me reste X ou Y adresse IP disponible. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est présent assez largement sur le marché à l'heure actuelle. Et ce qu'on veut, c'est vous offrir cette fonctionnalité dès l'operating system pour un petit peu reprendre tout ça en main. Alors ça permet de tirer parti des infos qui sont présentes de manière dynamique dans votre infrastructure, donc d'aller récolter ces informations de manière périodique sur l'ensemble de ces serveurs, des CDNS, DHCP et NPS. Mais c'est aussi le successeur de la fiche Excel qui se passait de génération en génération de stagiaires chez vous pour gérer les adresses IP fixes. C'est-à-dire qu'en gros, ça va vous offrir une interface centrale pour gérer ces adresses IP manuelles. Donc on va avoir une base centralisée, pouvoir afficher ça sur différents serveurs. Autre nouveauté, resource metering. Donc typiquement dans des topologies de type cloud, hébergement de multiples locataires, on va chercher à mesurer qui consomme quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces métriques de consommation, typiquement en bande passante, puisqu'on est à l'heure actuelle en train de discuter de réseau, elles vont suivre les VM. C'est-à-dire qu'avec cette fonctionnalité de live migration qui va exister entre mes différents hôtes, mais en fait la donnée de consommation de bande, elle va survivre à la migration d'un hyperviseur à l'autre. C'est plutôt pratique hein, quand on veut suivre la facturation d'une machine. Donc ces informations, en fait, ils vont coller entre guillemets à la machine virtuelle. Au sujet intéressant, Branch Cache. Il y a des gens qui ont déployé Branch Cache déjà dans leur organisation. Yes. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler de Branch Cash précédemment. Ça reste quand même pas la majorité. Branch Cash, c'est une fonctionnalité entre guillemets d'accélérateur WAN sans accélérateur WAN. L'idée, c'est de se dire, bah effectivement, je vais pouvoir faire face à la consommation de bande passante massive de mes sites distants en utilisant un certain nombre de mécanismes de cache. C'est-à-dire que je vais pouvoir soit utiliser en mode peer-to-peer des machines qui sont présentes sur mon réseau. Et la première fois qu'une machine va aller chercher du contenu dans un point du réseau, ben, on va pouvoir le mettre à disposition sur les autres machines. Donc on sait cacher en fait du contenu qui est du partage de fichiers, du SMB, ou de l'HTTP et de l'HTTPS. Donc en gérant des informations réparties sur ces caches. Et on a la possibilité d'avoir aussi un serveur de cache. Un mode dédié. Jusque-là, rien de neuf et rien de propre à Server 2012, puisque c'était introduit en fait dans Windows 7 et Server 2008 R2. Ce qui est nouveau dans Branch Cache, dans cette nouvelle version, c'est qu'on va pouvoir désormais avoir plusieurs serveurs de cache par site, parce qu'en fait, un certain nombre de clients qui l'ont déployé nous ont dit, bah ouais, vous êtes bien gentil, mais il n'y a qu'un seul serveur qu'on peut mettre par site. Et c'est vrai que c'était la réalité. La réalité, la manière en laquelle on l'avait conçu, c'est que ce soit pour des petits sites et qu'un seul serveur ce soit suffisant. Certains de nos clients nous ont dit, bah ouais, nous ce qu'on veut, c'est plus de serveurs par site. Donc c'est implémenté dans Server 2012 et dans Windows 8. Et aussi, ce qu'ils voulaient, c'est une reconfiguration dynamique. C'est-à-dire que quand j'ai un utilisateur qui passe d'un site à l'autre, bah, je vais automatiquement découvrir ce nouveau site et utiliser le cache sur le site adéquat, s'il y en a un. Donc on va utiliser la notion de site Active Directory pour localiser un serveur de cache qui serait présent sur tel site. Donc ça, c'est une nouveauté du cache, de Branch Cache en 2012. Et puis, autre nouveauté qui est intéressante parmi tellement d'autres, c'est le préchargement du cache. C'est-à-dire de faire quoi? De se dire, ben, en fait, normalement, le cache, il est constitué à la première consommation de la ressource sur mon serveur. Par contre, il y a des choses que je peux prévoir. Je peux prévoir que mon DG, il va mettre un slide PowerPoint de 50 mégas à dispo sur un file share ou sur un SharePoint. Ben, je peux prévoir de déjà créer les hashes et de créer les morceaux à mettre en cache et de dispatcher sur les serveurs. Donc c'est la possibilité qu'on a avec Server 2012 maintenant, c'est de créer les hashes et de créer le fichier de cache qu'on va pouvoir importer en PowerShell sur mon site, sur mon serveur qui va me servir de serveur de cache. PowerShell, bah c'est beau, c'est puissant, c'est fantastique, ça fait tout ce que vous voulez et même beaucoup plus. 400 commandes uniquement, rien que pour le réseau, donc de quoi vous faire largement plaisir. En plus, avec l'ISE, l'Integrated Scripting Environment, vous pouvez découvrir automatiquement les commandes si vous les connaissez pas. Comme moi, par exemple, je ne me souviens jamais des commandes. Donc, si vous cherchez quelque chose qui est relatif à net, en fait, il va vous sortir toutes les commandes relatives à net. Vous allez pouvoir filtrer ensuite par contexte de commande et voir qu'effectivement, je veux que les choses qui sont relatives à net dans le contexte virtualisation, il va vous sortir et vous lister l'ensemble des commandes. Enfin, pour finir, dans l'intégration dans l'écosystème de Server 2012 en tant qu'operating system, bah, évidemment, on va fournir des moyens d'ajouter des composants au-delà de ce qui est fourni par défaut avec la plateforme. Et pour ça, typiquement, on pense à quoi? Bah, on pense au switch extensible Hyper-V dans Server 2012, qui va nous permettre d'ajouter au-delà des paramètres et des possibilités par défaut, de rajouter des extensions de capture pour bah, capturer du trafic, faire des statistiques sur l'utilisation de mon switch virtuel, dire bah, telle VM, elle a consommé tel truc, elle a établi des liaisons sur TCP, tel port, plus précisément. Des extensions de type filtrage, je veux faire de la stateful inspection entre mes machines virtuelles. Donc faire un firewall qui va vraiment inspecter en détail le contenu. J'ai la possibilité de rajouter une extension puisqu'on ne fait pas par défaut. Par défaut, on a juste la possibilité de mettre des ACL au niveau IP entre les machines dans le switch de 2012. Et puis, autre fonctionnalité qui est intéressante et qui là est vraiment dans une tendance du marché qui est assez forte, c'est le remplacement de l'unité de forwarding. Globalement, le switch Hyper-V 2012, il va permettre, avec un certain nombre de fonctionnalités, de forwarder des paquets d'un point A à un point B. Si vous voulez vous dire, bah voilà, je voudrais tirer parti de fonctionnalités additionnelles, comme dire, j'imagine l'implémentation de DHCP dans mon switch virtuel, nous on ne le fournit pas. Et Par contre, on va pouvoir dire bah, le Cisco Nexus 1000V, qui est un switch virtuel qui a déjà été prouvé sur d'autres plateformes de virtualisation, en fait, on va pouvoir l'utiliser et en tirer parti sur Hyper-V. Et architecturalement, chez nous, ça ne veut pas dire qu'on va remplacer la stack, ça veut dire que on va avoir un certain nombre de points d'entrée qui ont été définis au niveau des API, et on va pouvoir se connecter, et entre autres fonctionnalités qu'on va utiliser, ben, exploiter ces fonctionnalités de Cisco Nexus 1000V pour une extension de forwarding. Alors au niveau des partenariats, c'est le slide qu'on adore montrer, avec l'ensemble des partenariats, évidemment, beaucoup de partenaires travaillent dans ces différents domaines qu'on a discuté. Par exemple, on parlait de virtualisation de réseau et de NVGRE. On a assez rapidement le besoin en fait d'aller communiquer entre par exemple le monde NVGRE et le monde de mon réseau réel, le bon vieux réseau à l'ancienne tel qu'on le connaît, ou alors de discuter avec une passerelle VPN entre ce monde NVGRE et ce monde VPN, ou alors typiquement de faire cohabiter d'autres protocoles de virtualisation de réseau. Nous, on a NVGRE, mais d'autres constructeurs supportent d'autres protocoles. On va les nommer, hein, c'est VXLAN. Comment est-ce que je fais cohabiter tout ça? Bah, typiquement, F5 fournit des solutions qui ressemblent et qui permettent de faire ces fonctionnalités. On parlait du Cisco Nexus 1000V pour le processing du switch. Five9, Inmon, NEC fournissent des firewalls, des extensions de capture pour sortir des statistiques et faire du filtrage sur les flux qui sont échangés entre mes différentes machines. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. On a fini cette heure. En résumé, les principes fondateurs, les réseaux hautement disponibles, un hébergement de multiples locataires, tirer parti vraiment du hardware et de l'évolution du réseau, et puis gérer tout ça de manière efficace avec l'ensemble des partenaires. Merci beaucoup de votre présence et à bientôt.